Une heure en France. Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Une heure en France avec vos initiatives et l'actu du jour. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier. Dans l'actu du jour, nous avons noté ce rapport sur la pauvreté en France qui serait en hausse selon l'INSEE. On va étudier avec l'Observatoire des inégalités. Avant de partir au Pays Basque.
Là où une clé de la maison de Maurice Ravel avait disparu il y a 45 ans, elle a été retrouvée cet été, elle était sur la côte ouest des États-Unis. L'histoire est incroyable. On va parler aussi de l'enfance de Coluche à Montrouge, au sud de Paris, avec son fils aîné, Romain Colucci, et ce à la veille de l'ouverture de la billetterie des concerts des Enfoirés. Et puis nous visitons aussi une entreprise de tissage dans le Béarn qui s'est spécialisée dans le torchon.
La pauvreté, Coluche, Ravel et le Béarn, c'est parti jusqu'à 14h.
Et voilà maintenant les infos du jour avec Simon de Faux-Compris.
Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
Un accord sur le Brexit conclu in extremis à quelques heures d'un sommet européen. Londres et Bruxelles viennent de valider un texte sur la sortie britannique de l'Europe.
Les négociations se sont précipitées ces derniers jours, mais ce midi, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'estiment tous les deux satisfaits. Nicolas Balut, bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce qu'on doit être surpris par cette entente?
On peut l'être, disons. Européens et Britanniques se préparaient à une sortie sans accord et la situation se serait débloqué il y a à peine une semaine lors de discussions entre Britanniques et Irlandais. Londres était finalement prêt à des concessions, l'Irlande aussi. Vous savez que l'un des points d'achoppement de cet accord, c'est la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Et depuis, feu vert a été donné aux négociateurs de l'Union Européenne pour entamer une dernière série de pourparlers. Le document final fait 600 pages, donc il s'inspire probablement en grande partie du dernier accord signé.
Le problème, c'est que ce dernier accord a été refusé 3 fois par le Parlement britannique.
Et oui, autant le nouvel accord sera probablement facilement approuvé par les chefs d'État européens puis par le Parlement européen, autant ce ne sera pas une sinécure pour Boris Johnson de le faire adopter par les députés britanniques. Le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, appelle déjà à voter contre. Et surtout, le parti politique DUP, unioniste nord-irlandais, refuse de soutenir l'accord. Et c'est ce petit parti qui fait les majorités en ce moment à la Chambre. Donc rien n'est écrit. On peut toutefois supposer que si Boris Johnson a dit yes à un accord, il a aussi son idée sur la manière de le faire passer.
Merci à vous. Thank you very much, Nicolas Balut. Et Emmanuel Macron a réagi. Il a salué l'accord, mais reste prudent. Retrouvez un article à la une de notre site francebleu.fr.
De nouveaux soupçons pèsent sur Nordal Lelandais. L'ex-militaire est déjà mis en examen, entre autres pour les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer.
Les parents du jeune Thomas Rochecolbe ont porté plainte cette semaine. Leur fils, à peine majeur, a été retrouvé mort il y a 4 ans en Savoie, au bord d'une rivière. Les parents n'ont jamais cru à la thèse de l'accident. Une violente rixe a fait 1 mort et 3 blessés cette nuit dans l'Essonne. 7 personnes ont affronté les habitants d'un camp de la communauté Rom dans la commune de Bondoufle. Tous étaient armés. C'est une première dans le volet français de l'affaire Epstein, du nom de ce financier américain, Jeffrey Epstein, accusé d'agression, harcèlement et trafic sexuel.
Une plainte pour des faits non prescrits datant de 4 ans a été déposée contre Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequin et proche du financier.
Ouais, Jean-Luc Brunel soupçonné d'être un complice, Stéphane Père.
C'est une jeune Française d'une 20aine d'années, domiciliée en France, qui a porté plainte par courrier en début de semaine auprès du procureur de la République de Paris. Plainte pour harcèlement sexuel contre Jean-Luc Brunel pour des faits qui ont moins de 4 ans, nous précise une source proche de ce dossier. On ne sait rien, à ce stade de cette femme, si elle a été employée ou non de la société de Jean-Luc Brunel, la société Karine Models. Elle devrait être entendue prochainement par les enquêteurs. Il s'agit en tout cas de la première plainte pour des faits récents et non prescrits dans cette affaire côté français. 3 victimes présumées ont déjà été entendues à leur demande à la fin du mois d'août par les policiers. Jean-Luc Brunel reste lui introuvable, mais sa convocation par les policiers de l'OCRVP est désormais inévitable.
Stéphane Père pour France Bleu. L'inspection générale de la police nationale se penche sur le cas Xavier Dupont de Ligonnès. Après l'arrestation à Glasgow la semaine dernière d'un homme soupçonné d'être cet assassin présumé, en cavale depuis 8 ans, le parquet de Nantes a fait appel à la police des polices pour enquêter sur cette erreur. Voyage diplomatique sous tension pour Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française est à Bagdad aujourd'hui pour discuter du sort des 3000 djihadistes étrangers, dont 60 Français détenus par le voisin syrien.
Les conflits dans la zone font craindre un possible regain de force de l'État islamique avec l'évasion de ses combattants. Le ministre veut les transférer et les faire juger en Irak.
En France, la pauvreté augmente. Elle a concerné plus de 9 millions de personnes en 2018 selon des données provisoires de l'INSEE. Cette évolution s'explique principalement par la forte hausse des revenus financiers chez les plus aisés.
On va expliquer ce mécanisme en cette journée mondiale du refus de la misère, nous recevons dans un instant l'Observatoire des inégalités.
Les voitures polluantes, les plus polluantes, dans le viseur des députés. Ils viennent de voter un durcissement du malus pour pousser les gens à acheter des véhicules plus écolos. Ça va jusqu'à 12 500 euros de malus pour les plus polluants.
Par ailleurs, plusieurs organismes comme l'Agence internationale de l'énergie alertent aujourd'hui sur le bilan désastreux des SUV. Ces gros 4x4 qui se vendent très bien, mais qui sont la deuxième plus grande source d'émissions de CO2 dans le monde ces dernières années.
C'est au tour d'Édouard Philippe de défendre la réforme des retraites. Le Premier ministre attendu à 18h ce soir dans le Jura pour débattre avec environ 200 habitants de Lons-le-Saunier. 4200, c'est le nombre de lits supprimés dans les hôpitaux l'année dernière, hôpitaux et cliniques. Ça s'explique par une réorganisation des soins, dit le ministère de la Santé, en pointant l'augmentation des hospitalisations à domicile, cette fois plus 3,4%. Les détails sur francebleu.fr. Une bonne nouvelle, Denis, pour les fans de tennis, de terre battue et de beaux revers à une main. Le Suisse Roger Federer annonce aujourd'hui qu'il participera à Roland-Garros l'année prochaine. Il a 38 ans quand même, toujours numéro 3 mondial et il en veut encore. Le tournoi parisien aura lieu du 24 mai au 7 juin 2020.
Ouais, c'est pas pour tout de suite quand même.
Mais rendez-vous pris. La météo de ce jeudi 17 octobre. La perturbation progresse vers l'est, amenant pluies et nuages des côtes aquitaines vers la frontière allemande. Un peu plus de soleil, mais aussi du vent jusqu'à 80 km/h à l'ouest sur les côtes de la Manche et la Bretagne.
Le chiffre du jour, c'est 15 degrés à Quimper cet après-midi, à Dijon, à Bar-le-Duc, à Tulle, à Barcelonnette ou Poitiers. 16 à Cibourg, au Pays Basque, chez Maurice Ravel, où nous allons chercher une clé ce midi. 22 sur la Côte d'Azur ou en Corse. À plus tard, Simon, de Faucon Prêt. Nous parlons de pauvreté en France dans une minute.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Adrien Serrière.
Un gros ralentissement actuellement sur la francilienne extérieure entre Collégien et Mitry-Mory. Le temps de parcours est de 40 minutes, le double du trajet habituel. Il y a aussi un accident sur la 3 à Bondy dans le sens Paris-Provence, mais les ralentissements sont surtout dans le sens inverse, de Gonesse à Rosny-sous-Bois. Le trafic s'est aussi chargé ces dernières minutes sur l'A6A et l'A6B à l'approche de Paris. Le trafic du RERD est toujours interrompu entre Juvisy, Malesherbes et Melun à cause d'un train en panne. La reprise devrait arriver vers 13h30. Même problème et même estimation pour le retour à la normale sur la ligne 12 du métro. Trafic interrompu entre les stations Méridici et Montparnasse.
C'est l'Observatoire des inégalités que nous recevons ce midi après les dernières données de l'INSEE sur le taux de pauvreté en France qui serait en hausse pour s'établir à près de 15% de la population. La chef de projet de l'Observatoire des inégalités est en ligne depuis Tours. Bonjour Anne Brunner.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes surprise par cette hausse alors que le chiffre était plutôt stable ces dernières années et d'ailleurs dans un contexte où le chômage régresse un peu ?
Alors, il y a plusieurs raisons qui m'amènent à être assez prudente dans l'analyse de cette hausse. Tout d'abord, vous l'avez dit, ce sont des données provisoires qui seront établies par une simulation de l'INSEE sur un petit échantillon. Donc, c'est en septembre prochain qu'on en aura confirmation. La deuxième raison, c'est que cette hausse, sans rentrer dans les détails, elle est en partie neutralisable par l'effet de la baisse des APL sur le logement social qui s'est retrouvée dans une baisse des loyers pour les personnes concernées. Donc, elle n'a pas un effet réel sur le reste à vivre des personnes concernées. Et puis la troisième raison, c'est qu'à l'Observatoire des inégalités, on s'abstient autant que possible de commenter les évolutions sur un an. On essaie de prendre un peu plus de recul. Alors 9 millions de personnes pauvres en France, c'est un chiffre qui est assez stable depuis 5 ans. Après, ceci dit, une longue phase de hausse puisque on sait que la pauvreté a augmenté sur toute la période de 2002 à 2011 de façon très significative. Ça représente 1 million de personnes de plus qui vivent sous le seuil de pauvreté.
L'INSEE explique cette évolution, si elle est confirmée, vous faites bien de le préciser, par la hausse des revenus des plus aisés. Vous nous expliquez ce mécanisme ?
Il n'y a pas de mécanisme direct entre la hausse des niveaux de vie les plus aisés et puis la pauvreté. Ce que nous dit l'INSEE, c'est que les mesures fiscales, en particulier qui ont été prises par le gouvernement sur ces dernières années, vont avoir un effet sur les inégalités. Pas directement sur la pauvreté. Dans la publication de l'INSEE, il y a à la fois un état des lieux de l'évolution des inégalités en France et puis de la pauvreté.
Mais si les salaires, si les revenus grimpent pour les plus aisés, le salaire médian grimpe aussi en France. Et de ce fait, le taux de pauvreté peut grimper, le chiffre en tout cas, non ?
Alors, en effet, après plusieurs années de stagnation du niveau de vie médian, après impôts, après prestations sociales, on voit une faible augmentation à nouveau du niveau de vie médian. Il concerne l'ensemble de la population française. C'est le niveau de vie qui partage la population en deux parties égales. Donc ça veut dire que si vous êtes à ce niveau de vie, aux alentours de 1700, vous êtes au milieu de la population française. Il y en a autant qui gagnent plus que vous et autant qui gagnent moins que vous. Quand on regarde les inégalités, on regarde les inégalités sur toute la distribution, toute la population, y compris les plus pauvres et les plus riches. Du côté des plus riches, on s'attend en effet à une hausse de leurs revenus pour plusieurs raisons, et en particulier du fait de mesures fiscales prises en 2017 et en 2018 par le gouvernement. Je pense aux prélèvements forfaitaires sur les revenus financiers qui ne sont plus taxés au même niveau que les revenus du travail, mais à un taux forfaitaire plus faible. Et puis à la suppression aussi de l'ISF, la suppression partielle de l'impôt sur la fortune, transformée en impôt sur la fortune immobilière. Tout ça va avoir un effet sur les revenus des très riches, mais pour le voir, il faudra regarder d'autres indicateurs, pas forcément le niveau de la pauvreté en France, mais plutôt des indicateurs globaux qui mesurent les inégalités dans leur ensemble.
Eh bien, à ce propos, je signale que vous venez de ressortir le rapport sur la pauvreté en France, une centaine de pages écrites dans un langage clair à la portée du grand public. On peut se le procurer en allant sur votre site Observatoire des inégalités. Je voulais quand même juste rajouter un chiffre. Le seuil de pauvreté est actuellement de 1075 euros par mois. Merci Anne Brunner, chef de projet à l'Observatoire des inégalités. Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne journée. Une heure en France continue avec les initiatives et les histoires du jour.
Une heure en France. Denis Farrou. Frédéric Le Ternier.
Et on poursuit avec l'histoire tourmentée d'une clé, celle de la pièce où serait né le compositeur Maurice Ravel. Elle avait été volée, cette clé, il y a des dizaines d'années, et elle était récemment rendue.
Elle est rouillée, mais elle est revenue au Pays Basque 45 ans après sa disparition.
Ensuite, nous recevons Romain Colucci, le fils de Coluche, qui va nous raconter l'enfance de son père à Montrouge, en région parisienne, alors que la billetterie pour les concerts ouvre demain.
Sur la place de la mairie à Montrouge, il y a une statue de la salopette de Coluche, je vous assure. La première fois, ça surprend.
Et puis on termine avec le savoir-faire de la maison Moutet en Béarn, qui fabrique du linge de maison depuis quand même 5 générations.
Et qui s'est spécialisé dans le torchon. Mais il y a torchon et torchon, on va le voir.
Une heure en France, c'est bien sûr jusqu'à 14h avec Laurent Voulzy, un petit peu de soleil qui s'invite. Le soleil donne sur France Bleu.
rodea el deseo de quererse más, rodea el sol.
Sur France Bleu avec Le Soleil Donne à 13h18.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
C'est bien cette entrée sur Daphnis et Chloé, je trouve.
C'est du Ravel ?
On devrait la garder. Une clé de la maison de Maurice Ravel à Cibourg, au Pays Basque, avait disparu il y a, accrochez-vous, 45 ans. Elle a réapparu cet été et l'histoire est incroyable.
C'est un Américain, admirateur de Ravel, qui l'avait subtilisé. Pris de remords, il l'a renvoyé cet été.
La clé a été officiellement remise au maire de la ville par notre invité, le pianiste chef d'orchestre, président de l'Académie Ravel. Bonjour Jean-François Esser.
Bonjour.
Alors, on a besoin de détails, évidemment, sur cette affaire. De quelle clé s'agit-il d'abord ?
Alors, la maison de Ravel est donc située au Pays Basque. Il est né à Cibourg, la ville jumelle de Saint-Jean-de-Luz. Et donc, la maison de Ravel, et d'ailleurs, avait une histoire célèbre, puisque pendant le mariage de Louis XIV en 1660, le cardinal Mazarin habitait dans cette maison, donc il deviendrait la maison de naissance de Maurice Ravel plus de deux siècles après. Elle donne sur le port, elle donne de l'autre côté sur une rue à l'intérieur du village de Cibourg, en face de l'église où était d'ailleurs baptisé Maurice Ravel, et c'est cette clé de la porte de derrière qui avait été donc dérobée.
Et comment a-t-elle pu être volée, cette clé ? C'était dans quelles circonstances ?
Alors, en fait, en 1975, on a célébré le centenaire de la naissance de Maurice Ravel, ce qui a drainé évidemment beaucoup de d'amateurs de musique qui ont voulu voir le lieu où Ravel avait été né et avait séjourné pendant de nombreuses années. Et puis, donc, ce monsieur américain qui était venu, jeune, je pense, musicien amateur, peut-être, et qui a voulu faire son parcours ravelien au Pays Basque. Et puis, il explique dans une lettre qu'il nous a envoyée, donc, au mois de septembre, que voilà, une impulsion du moment. Il est emparé d'une clé qu'il connaît sur la porte.
Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Qu'est-ce qu'il dit? Il s'excuse pour ce remords tardif?
Oui, enfin, il dit ça sur il met ça sur le coup de l'émotion du moment, un geste, comment on dit, irrépressible. Et donc, il est reparti avec ce fétiche, cet objet symbolique, certainement pour lui. Et puis, voilà, son âge plus avancé, pris de sentiment de culpabilité, il a voulu remettre les choses en place.
Ça lui a pris du temps quand même.
45 ans.
Et donc, j'ai présenté ça comme une surprise pour la mairie donc, de Cibourg, puisque l'Académie Ravel donc, fait partie du Festival Ravel, qui est une grande manifestation qui s'étale de la dernière semaine d'août jusqu'au 15 septembre, avec beaucoup de concerts, et puis donc cette académie qui existe depuis 50 ans pratiquement. Et donc on termine toujours par une cérémonie de clôture, et à la fin de cette cérémonie, j'ai voulu faire une surprise un peu décalé, un peu humoristique, en remettant officiellement cette clé au maire de Cibourg, voilà, pour que les choses soient
remises en place.
Ouais. Mmh. On a vérifié la clé, si c'est bien la bonne clé. Est-ce qu'elle rentre toujours dans la serrure de la porte de derrière?
J'imagine, parce que la porte de derrière est une porte très très ancienne, et je pense qu'effectivement la serrure n'a pas dû beaucoup changer depuis l'époque. Voilà.
Est-ce que vous avez pensé que c'est quelque chose de particulier qui a fait changer d'avis cet Américain, ou voilà, ou c'est juste le temps écoulé, il a mûri, il s'est dit allez, je garde pas cet objet chez moi, loin de...
Vous savez, quand les gens arrivent à un certain âge, je dirais pas qu'il est comme le laboureur de la fable 100 ans la fin prochaine, mais je crois simplement que tiens, il s'est dit... Il a dû entendre parler effectivement de nos festivités musicales du mois de septembre, qui sont bien relayées. Donc, et puis il a dit tiens, je vais profiter de l'occasion pour me manifester.
Mmh. Ouais. Peut-être qu'il nous écoute aujourd'hui. Hein. Il habite dans l'Oregon, sur la côte ouest. Il a 66 ans et des tas de petits enfants.
Vous pensez qu'une heure en France passe dans l'Oregon? Ça passe par Internet, peut-être.
Par Internet, de partout sur la planète et même sur la Lune.
Oui, il faudrait voir quelle heure il est là-bas. Mais... en tout cas, c'est une bien belle histoire et merci beaucoup de nous l'avoir racontée aujourd'hui, Jean-François Esser.
Bah, écoutez, merci à vous et puis peut-être à bientôt au Festival Ravel.
Très bien, voilà. On parlait du boléro, on parlera désormais aussi de la clé de Ravel qui est revenue au Pays Basque.
Ah oui, parce que le boléro, on en parle souvent, c'est la pièce quand même qui est jouée pratiquement toutes les minutes tout autour du monde.
C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis, nous, pour notre petite présentation. On a choisi Daphnis et Chloé pour changer, pour varier les plaisirs un petit peu.
Voilà.
Merci Jean-François Esser.
À bientôt, au revoir.
Merci, à bientôt.
Et nous jouons pour deux invitations pour aller voir un film France Bleu qui est sorti hier, qui est magnifique, qui s'appelle Fahim. C'est avec Gérard Depardieu. Forcé de fuir son Bangladesh natal, et bien le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Et dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique, avec une menace d'être expulsé à tout moment. Mais grâce à un don pour les échecs, Fahim va rencontrer un professeur interprété par Gérard Depardieu. C'est plein de poésie, c'est joli, c'est drôle, c'est émouvant. Donc vraiment, allez voir ce film, un film France Bleu.
C'est drôle, on va parler d'échecs demain dans
Une heure en France. Oui, vous avez vu comme nous sommes dans l'actu, hein, Denis, c'est incroyable. Dites-nous en quelle année est mort Maurice Ravel? Est-ce que c'est 1937 ou 1917 à votre avis? D'accord, excusez-moi, j'y étais pas, vous chantez le boléro en fait. Alors en quelle année est mort Ravel, 1917 ou 1937? Vous nous appelez 0810 055 056. Et puis vous restez bien avec nous, on va revenir sur l'enfance de Coluche à Montrouge en région parisienne. C'est son fils qui nous raconte l'histoire de son père, et à 13h45, on pousse les portes d'une entreprise familiale de linge, de maison, et ça se passe en Béarn. C'est Shawn Mendes, Señorita, Camila Cabello pour l'accompagner. Il est 13h25 sur France Bleu, excellent début d'après-midi à vous tous. Tripping off me before I
sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. You felt like oh la la la. Yeah. I love it when you call me.
Que ça amènerait un petit peu de soleil aussi. Ils sont mis à plusieurs. Laurent Voulzy tout à l'heure avec Le Soleil Donne et maintenant Shawn Mendes et Camila Cabello avec Señorita sur France Bleu pour accueillir Arnaud. Bonjour Arnaud, bienvenue.
Bonjour, merci.
Où êtes-vous Arnaud ?
En Haute-Savoie.
Où ça en Haute-Savoie ?
Alors là actuellement je me trouve au niveau de Coponnet.
Moi, je vois pas où c'est. Vous...
C'est entre Saint-Julien et Annecy, en fait.
Ah, très bien. Là, on vous voit, Arnaud. On vous voit bien. Et que faites-vous en ce jeudi ?
Eh ben, je travaille. Là, j'étais entre deux clients. Je suis pet-sitter. Je fais la garde et promenade de chiens au domicile des gens.
Ah, pet-sitter. On en a parlé dans Une Heure en France.
Bien sûr.
Ouais.
Voilà.
Du coup, vous avez de nombreux clients réguliers dont vous sortez les chiens dans la journée ?
Tout à fait.
Et c'est quoi les races de chiens différents ? Vous avez des petits, des grands, un peu de tout ?
Oh, ça va du lévrier au bosseron, du bosseron au bouvier, du bouvier au malinois, du malinois au yorkshire, enfin voilà.
Ah, du malinois au yorkshire, c'est le grand écart.
Ouais. Voilà. Mais cela dit, promener un chihuahua avec un berger allemand, on fait comment ?
Ça se passe normalement.
C'est vrai ?
Arnaud, c'est quel chien que vous sortez après notre petite conversation téléphonique ?
Un malinois.
Très bien, qui s'appelle comment ?
Gaïa.
Vous lui transmettrez nos amitiés.
Bonjour Gaïa.
Alors Arnaud, on joue pour deux invitations pour le film France Bleu Faïm, un très beau film avec Gérard Depardieu. Dites-nous, en quelle année est mort Maurice Ravel ? Est-ce que c'est 1917 ou 1937 ?
1937.
Oui, exactement. Vous aimez la musique classique, Arnaud ?
J'aime la musique, j'écoute de temps en temps la musique classique, j'aime tout style de musique, donc voilà. Mais j'avais entendu que c'était en 1937.
Eh bien, vous êtes bien souvenu, bien rappelé de la bonne réponse. On vous envoie les invitations, on vous fait une grosse bise Arnaud.
Merci beaucoup.
Merci, bon après-midi avec Gaïa et les autres.
Je vous remercie, c'est gentil, bon après-midi.
Bon après-midi. De rien, au revoir Arnaud. Romain Colucci est notre invité dans quelques minutes, dans Une Heure en France. Ce sera après un petit peu de musique.
France Bleu. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu.
Debout, c'est l'heure.
Thomas Séchier, Sophie Scarpula.
C'est l'heure du club des Lève-Tôt, l'heure de partager la musique que vous aimez et votre météo.
Pour vous informer, pour vous accompagner, pour bien commencer la journée.
Alors, à demain sur France Bleu.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, dès 5h.
Francebleu.fr. Tout France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info trafic et mobilité en temps réel. Adrien Serrière.
Ça roule mal sur l'A3 entre Rosny-sous-Bois et gare au nord du sud vers le nord. Il y a un accident à hauteur de Bondy qui ralentit le trafic. Vous perdez un bon quart d'heure sur ce parcours. C'est pire sur la francilienne extérieure entre Collégiens et Mitry-Mory. Le trajet prend une demi-heure de plus que lorsque le trafic est fluide. Les ralentissements se concentrent notamment à partir de Villevaudet. Beaucoup de monde également sur la 6A entre Vissou et la Porte d'Orléans, secteur encombré actuellement. Enfin, le RERD reprend progressivement sa marche entre Juvisy-Malesherbes et Melun, mais le trafic reste ralenti sur ses axes à cause d'une panne électrique.
Il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Les murs de poussière, c'était Francis Cabrel sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
À la veille de l'ouverture de la billetterie pour les concerts des Enfoirés qui auront lieu mi-janvier à Paris, et alors que se profile un week-end spécial Enfoiré sur France Bleu, la radio partenaire des Restos du Cœur et des Enfoirés, eh bien nous revenons sur l'enfance du créateur des Restos, Coluche.
C'est à Montrouge qu'il a grandi, au sud de la capitale, là où l'on trouve un espace Coluche, une statue de la salopette de Coluche devant la mairie, et aussi une plaque devant la maison de l'enfance.
C'est l'un de ses fils que nous recevons ce midi, nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour Romain Colucci.
Bonjour.
On parle souvent des débuts de Coluche, du Café de la Gare, de la vie parfois agitée de Coluche, des Restos du Cœur, moins souvent de son enfance. Que savez-vous de l'enfance de votre père? Est-ce que c'était une enfance tranquille, classique, on va dire?
Comme vous savez, j'y étais pas puisque je suis son fils.
Certes.
Mais je tiens à dire que, évidemment, tout est faux. Il est né à Chibourg, dans une très belle maison, et d'ailleurs Mazarin y a séjourné à l'occasion du mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse.
Vous nous avez écouté tout à l'heure.
Comment vous avez deviné?
Donc Montrouge quand même alors.
Voilà, Montrouge quand même, effectivement, banlieue banlieue pauvre et communiste du sud de Paris à l'époque de la naissance de Coluche. Et c'est voilà, il a été à l'école buissonnière de la rue.
Ouais.
Voilà, comme on dit, pas beaucoup à l'école et beaucoup dans la rue.
On a retrouvé ces mots de Coluche. C'est lui qui parle. Ma mère me disait, si tu sors dans la rue, fais bien attention qu'il ne t'arrive rien. Mais s'il ne t'arrive rien, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire quand on est môme. C'est vraiment du Coluche, ça.
Et ouais, voilà, il disait de cette époque. Et de son enfance, j'avais le choix entre être voyou et devenir intelligent. Et ben voilà, il est devenu intelligent, la preuve.
Romain Colucci, est-ce que vous savez si votre père avait gardé des amitiés de son enfance, de Montrouge ?
Absolument, ben oui, bien sûr, ouais, ouais. Des amitiés, des souvenirs, voilà, on y allait régulièrement parce que ma grand-mère vivait encore là-bas, il lui avait trouvé un appartement et de toute façon, elle voulait pas bouger de son quartier, elle adorait son quartier. Donc, ouais, ouais, on a passé une grande partie de notre jeunesse, nous-mêmes, à aller voir notre grand-mère dans le quartier qui a pas changé. Hein. Là où il y a aujourd'hui la statue Coluche à Montrouge, il est né juste à côté.
C'est-à-dire quasiment sur la place de la mairie.
Ouais, tout près dans un immeuble qui a été démoli aujourd'hui parce que la ville a changé fort heureusement. Mais il était vraiment de là-bas. Et oui, il a gardé plein de copains. Je pense en particulier à Boubou, que je salue s'il nous écoute.
La ville lui rend hommage au fil des ans, j'ai envie de dire. L'espace culturel Michel Colucci, la statue dont on parlait à l'instant, qui a été restaurée. Et puis cette plaque devant la maison de l'enfance, qui a été posée il y a quelques mois seulement. Vous-même, Romain, vous allez à Montrouge de temps à autre ?
Et oui, parce qu'on a encore, de la famille là-bas, figurez-vous. Ah. On a, voilà. J'ai toujours des cousins. Mon père avait une sœur qui s'appelle Danielle et que je salue aussi. Et voilà, un de ses fils habite là-bas, Bruno.
D'accord.
Voilà, donc on va. Puis bon, c'est pas très loin. Nous, on habitait dans le 14e, hein, vous savez. Oui. Donc c'est vraiment de l'autre côté du périph, quoi. La fameuse maison de la rue Gazan, elle était toute proche, quoi.
Romain Colucci n'était pas très assidu à l'école, votre papa, hein, vous l'avez fait comprendre entre les lignes il y a quelques instants. C'est à partir de quel âge qu'il va enchaîner les petits boulots et surtout, est-ce que c'était à Montrouge ?
C'est jeune, c'est très jeune, c'est partout, c'est pas forcément à Montrouge. Le bassin d'emploi à l'époque, ça se situe plutôt dans Paris intramuros. Mm-hmm. À Montrouge, c'est plutôt le terrain de jeu pour les bêtises, les menus larcins et les tours de mobilette et les trucs comme ça, quoi. Non, le travail, je crois que c'était plutôt sur Paris, hein, à l'époque. Et très vite, lui, il a eu envie de franchir le périphérique et de passer les frontières qui étaient justement hermétiques. Et tout ce qui était frontière, lui, il les défonçait. Il n'aimait pas rester dans les cases qu'on lui attribuait.
Parce que pour être précis, il est né à Paris, il a grandi à Montrouge et il est revenu beaucoup plus tard dans le 14e.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on est tous nés à Paris et on est tous nés au même endroit. Mon frère et moi et même mes enfants, je crois. Donc, on est très fidèles à cette maternité.
Comment ça, je crois ?
Je sais pas pourquoi. Ça a super bien marché jusqu'ici, donc on continue. Et effectivement, les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils vivaient en banlieue. Hein, bah, c'est encore le cas aujourd'hui. Et Coluche, il vivait avec sa mère et sa sœur. Voilà, le père de mon père est décédé quand il était très jeune. Et donc, ils vivaient tous les trois dans un petit appartement. C'était pas la fête tous les jours. Et une fois, la mère de Boubou l'avait invité à manger. Ils étaient trois à table, elle est arrivée avec deux œufs, elle a dit « Alors Michel, un peu de jaune, un peu de blanc ?»
Et est-ce que c'est dans ces années-là, au moment de l'adolescence ou fin de l'adolescence, qu'il a voulu fuir cette vie un peu ouvrière, on le disait, et chanter dans les cabarets ? Parce qu'il a voulu aussi apprendre la guitare.
Oui, alors ça part pas de la volonté de devenir chanteur. Il aurait bien aimé être chanteur, ça c'était un rêve, mais c'est un rêve que partagent sans doute beaucoup de jeunes de son époque, et pas seulement de son époque. Qui voulait, c'était fuir le patronat. Il aimait pas les patrons, Coluche. Voilà, il le dit très volontiers. Je me suis vite rendu compte que les patrons et moi, on n'était pas copains. Et donc, il voulait pas de patron. Donc, des métiers sans patron, ben, il y avait hommes politiques, voyous et artistes.
L'enfance de Coluche à Montrouge avec son fils aîné, Romain Colucci. Vous confirmez bien qu'il a grandi à Montrouge et non pas au Pays Basque chez Maurice Ravel, on est d'accord. Hein.
Non, voilà, je suis obligé de... Les clés, c'est pas nous non plus, on les avait fait.
Une dernière chose, Romain Colucci, est-ce que ça vous étonne, on doit souvent vous poser la question, mais que l'esprit de votre père soit aussi présent, encore aujourd'hui, des années après sa disparition, qu'il soit aussi cher au cœur des Français, on le voit avec la nouvelle campagne des Restos du Cœur notamment.
Oui, bah écoutez, ça me surprend pas tellement parce que je vois que il y a des gens qui racontent des choses pas très intéressantes et qui mentent et qui sont moins. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais lui, il était tellement visionnaire, il voyait tellement bien les choses et il était tellement drôle que je vois pas comment on peut se démoder quand on a ces qualités-là, quoi.
On était ravis de passer ce moment avec vous, Romain Colucci.
Merci beaucoup et je rappelle que France Bleu est la radio des Restos du Cœur partenaire. On en est très fiers.
Et qu'à partir de demain, vous pouvez trouver les places pour aller voir Les Enfoirés dans le Paris des Enfoirés à Paris.
Ce sera à Paris, ce sera en janvier, effectivement.
À partir du 15 janvier.
Et week-end spécial.
Absolument.
Vous ne nous collerez pas, on a toutes les infos.
On est béton. Hein.
J'ai tout essayé pour vous induire sur de mauvaises routes.
Merci de votre gentillesse et d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous, Romain Colucci, de nous parler de l'enfance de votre père à Montrouge. Merci beaucoup.
Allez, merci à vous, bonne journée.
Bonne journée, au revoir. Et nous jouons à nouveau pour deux invitations pour aller voir le très beau film France Bleu qui est sorti hier, qui s'intitule Faïm et qui est avec Gérard Depardieu. Dites-nous, quelle est la statue en lien avec Coluche qui se trouve à Montrouge, Denis? On a parlé il y a quelques instants. Est-ce que c'est une salopette ou un nez rouge? Vous nous appelez au 0810 055 056. Dites-nous si la statue en lien avec Coluche qui se trouve à Montrouge est une salopette ou un nez rouge. 0810 055 056. Michael Jackson sur France Bleu avec Will You Be There. C'est maintenant. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Scold me, where lost will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not equal and fight till the end, but I'm only human. We'll be right back. Michael Jackson sur France Bleu avec Will You Be There, seras-tu là? L'esprit de Coluche en tout cas sera un petit peu avec nous, ça c'est sûr. Pour les prochains concerts des Restos du Cœur, je vous rappelle que l'ouverture de la billetterie est prévue demain. Demain. Jocelyne est avec nous, bonjour Jocelyne.
Frédéric, bonjour Denis.
Bonjour Jocelyne.
Vous êtes dans la Drôme à Haute-Rive, Jocelyne.
Oui, c'est ça.
Très bien. Et oui. vous adoriez Coluche aussi.
Oui, mais comme j'ai dit précédemment, oui, la demoiselle avec qui j'étais au téléphone.
Lola, qui
Lola,
est au
Lola, bonjour Lola.
On embrasse.
Alors, avec Lola. Oui, mais bien sûr, je crois qu'on ne peut pas ne pas l'aimer, en fait. Hein. C'est ça. Hein.
C'est difficile. Hein.
C'est ça, c'est difficile. Hein. Il y a toujours quelque chose qui est percutant.
Oui, on reste marqué par sa personnalité, ce que nous disions avec son fils il y a quelques minutes. Son fils qui est très drôle et charmant aussi.
Oui, il était très drôle, c'est vrai. Beaucoup de réactions, hein, réactivité.
Exactement.
Par rapport à votre sujet précédent.
Ouais, tout à fait. Jocelyne, j'avais une question sur la statue en lien avec Coluche qui se trouve à Montrouge. Est-ce qu'il s'agit d'un nez rouge ou de sa salopette?
Une salopette.
Exactement, et vous savez que Denis Farou l'a vu cette statue.
Écoutez, je sors du métro mairie de Montrouge, je vois une salopette sur pied, il me faut quelques secondes et là je me dis, mais bon Dieu, c'est bien sûr, nous sommes au Montrouge. Et là, je marche et je tombe sur l'espace Michel Colucci. Là, il n'y avait plus de problème.
Vous savez quoi, Denis?
Oui.
On y était là avec vous, hein, à Montrouge.
Je suis en train de vous raconter ma vie. Là.
Un peu, mais c'est pas désagréable. Hein. Ouais. Jocelyne, racontez-nous la vôtre. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi?
Alors, je vais bricoler. Mon mari fabrique des chaussures, notamment des mocassins pour hommes et pour femmes. Et j'ai du travail qui m'attend à l'atelier cet après-midi.
Et vous faites quoi, du coup, sur la chaussure, vous?
Alors, moi, je colle les premières de propreté. Je coupe les petits fils qui pourraient dépasser à droite et à gauche. Mm-hmm. J'imprime mes étiquettes. Je plie correctement mon papier de soie. Wow. Je monte les boîtes et
d'accord.
Je mets tout en boîte.
Mais c'est vrai que vous êtes à côté de la capitale de la chaussure, Romans-sur-Isère.
Oui,
bien sûr.
Vous avez entendu concernant
oui.
la cité de la chaussure.
Exactement. Mocassins oui. de toutes les couleurs, Jocelyne?
Elles sont, oui, disons que nous sommes en fin de carrière. Nous, on a déjà eu une première vie, on va dire, professionnelle. Donc, voilà, c'est pour finir en beauté. On finit sur, on a une dizaine de couleurs. C'est déjà pas mal. Ah,
vous avez des mocassins avec paillettes pour Frédéric?
Non, je n'ai pas.
Ah. Jocelyne, donnez le nom de votre marque. Faites-vous un petit peu de pub.
Alors, notre marque s'appelle Georges et Marcel.
Ouais.
Donc, Georges était le prénom du papa de mon mari et Marcel était le prénom de mon papa.
C'est joli. Eh bien, écoutez,
voilà.
On regardera alors,
voilà.
Hein, Jocelyne. Bon courage pour le boulot. Merci d'avoir
passé
ce petit moment avec nous.
Merci à vous. Nous passons de très bons moments en votre compagnie. La radio marche dans l'atelier.
C'est parfait. Ne changez rien.
On se distrait.
Merci, Jocelyne.
Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. On n'est pas da da.
Duo Vita et Slimane, ça va, ça vient sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et on s'arrête maintenant en Béarn, dans la ville d'Orthès, là où se trouve la maison Moutet, une entreprise familiale qui existe depuis 5 générations et fabrique le célèbre linge basque.
Et qui s'est spécialisée dans le torchon, avec un savoir-faire connu à l'international. Il faut dire que les motifs sont magnifiques.
Nous poussons les portes et nous sommes avec le directeur. Bonjour Benjamin Moutet.
Bonjour à tous.
Pour replacer vraiment, alors c'est votre arrière-grand-père qui a créé l'entreprise. C'était dans quelles circonstances ?
C'est ça, c'est en 1874 que l'histoire de la famille commence. C'est dans un contexte agricole, comme tout le textile dans nos régions du sud-ouest. Mon aïeul était le second de la famille, donc il n'a pas pu reprendre l'exploitation agricole. Du coup, il a dû trouver un job et il a migré jusqu'à la ville d'Orthès pour être embauché comme vendeur dans un magasin de tissus.
Ouais.
Et après, ça lui a plu, il est devenu propriétaire à la retraite des patrons.
Ça lui a bien réussi finalement d'être le second, et de oui, trouver voilà, un petit job. Ça. Et pourquoi est-ce qu'on parle de linge basque pour un tissu fabriqué dans le Béarn, Benjamin Moutet ?
Alors la question se pose notamment aussi pour le jambon de Bayonne ou le béret basque, c'est tout un débat, on est sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, deux identités fortes, Pays Basque et Béarn, mais on se rejoint sur beaucoup de choses et notamment sur la tradition agricole, la tradition industrielle, et on parle essentiellement de produits basques parce que c'est la vitrine commerciale. Le tourisme est principalement développé au Pays Basque, même si le Béarn mérite qu'on s'y attarde et qu'on vienne le visiter. Mais principalement avec le tourisme dans les années 30, c'est là qu'on voit arriver le terme de linge basque.
Ouais. On a compris que les tissages Moutet se sont spécialisés depuis quelques années dans les torchons. C'est vrai que quand on dit torchon, on ne pense pas forcément à du beau linge.
Oui, ça a été le coup de force de la société. On a été les premiers à inviter des créateurs sur l'objet basique qu'est le torchon. On a été les premiers chez Tissage Moutet à dire qu'un torchon pouvait être autre chose que simplement à carreaux ou à rayures. On l'a agrémenté de couleurs, de dessins. Bon, ça correspond aussi à l'évolution des cuisines. Hein. Chez les gens, les cuisines sont ouvertes aujourd'hui. Quand vous recevez, vous aimez bien montrer toutes les parties de la maison. À l'époque, c'était plus caché. Donc voilà, le torchon, c'est un objet cadeau et déco aujourd'hui chez nous. Au lieu de repeindre une cuisine, vous agrémentez ça d'un torchon, ça vous refait une belle touche de couleur et ça marche bien.
Alors je peux vous dire, Denis, je les ai regardés, évidemment, les torchons Moutet, ils sont magnifiques. Il y a des motifs incroyablement différents, il y a toutes les couleurs. Et ça d'ailleurs, Benjamin Moutet, on le doit à votre maman parce que l'entreprise, elle fléchissait un petit peu dans les années 90 comme beaucoup d'autres entreprises. Et c'est elle qui a eu l'idée de faire des choses un peu plus colorées.
Oui, c'est elle qui a eu cette idée. C'est le cas aussi des femmes hein, qui n'ont pas eu forcément la place qui leur était réservée et nécessaire dans les années 70. Donc, il a fallu attendre les années 90 pour que voilà cette expression plus créative s'exprime sur les toiles. Et avec elle, dans les années 90, beaucoup de créateurs se sont joints à la société. Aujourd'hui, on travaille avec 10 créateurs différents qui amènent chacun leur inspiration. Donc ça fait un panel de torchons qui est vraiment très large. On a plus de 300 dessins différents. Mmh. Et donc c'est elle qui a vraiment poussé l'aspect couleur et dessin. Ouais.
On a compris que le torchon n'est pas qu'un torchon, c'est un accessoire et même une idée cadeau. On peut offrir des torchons quand il y a un beau design et de belles couleurs.
Et ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y a des savoir-faire uniques de tissage qui restent présents dans votre entreprise.
Oui, on accompagne le transfert des savoir-faire depuis 5 générations. Aujourd'hui, on a une équipe assez jeune, on est une vingtaine sur le site, la moitié de moins de 35 ans. Et on a une transmission des savoir-faire qui se fait parfaitement. C'est-à-dire que les anciens forment les nouveaux avant de partir et ça fonctionne à merveille. On invite tout le monde à venir visiter notre usine.
Ouais.
Donc à Orthès, ça se visite, les gens peuvent appeler, venir voir sur place qu'est-ce qui est fabriqué, comment on le fabrique, et tout le monde est heureux de partager ça. Et c'est aussi les valeurs qu'on porte sur le territoire, c'est-à-dire maintenir hors agglomération des industries qui permettent à des jeunes de s'installer dans les villages. On est aussi la moitié à vivre dans des villages de moins de 300 habitants, donc c'est aussi un message qu'on porte. Mmh. L'industrie peut voilà, offrir une qualité de vie aux gens sur le territoire et tout autour.
Ça fait plaisir de vous entendre parce qu'on se dit que le textile français a un avenir.
Ouais, moi j'avais encore plein de questions à vous poser parce que c'est passionnant. Si vous le pouvez, aller visiter hein, cette entreprise, la Maison Moutet à Orthez, comme nous l'a dit Benjamin Moutet. Il y a aussi des choses à savoir, hein, que le fil s'adapte à la météo. Vous cultivez à nouveau du lin pour refaire du Made in France de A à Z sur vos torchons. Bravo pour les initiatives et merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
Mais merci à vous de nous suivre et à très bientôt.
À bientôt, merci Benjamin Moutet. Au revoir. James Brown, tout de suite pour terminer, pour refermer cette heure passée ensemble en France. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, and I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Mal. I feel good, c'était James Brown sur France Bleu. On espère que vous vous sentez bien après cette heure passée ensemble en France. Vous avez vu, j'ai pas toussé aujourd'hui. J'ai une voix un peu particulière, mais j'ai pas toussé.
Certes.
Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Denis ?
On a retrouvé la clé de la maison de Maurice Ravel, qui était perdue depuis 45 ans et est rentrée au Pays Basque en provenance de la côte ouest des États-Unis.
Ensuite, on a passé un moment délicieux avec le fils de Coluche, Romain Colucci, qui nous a parlé de l'enfance de son père à Montrouge, en région parisienne.
Oui, comme a dit Jocelyne, qui nous a appelé de la Drôme et qui fabrique des mocassins Georges et Marcel. Coluche, on ne peut pas ne pas l'aimer.
Et puis on a terminé avec une entreprise, l'entreprise Moutet, qui se trouve à Orthez et qui fait des torchons du très beau linge.
J'ai bien aimé la réflexion de Benjamin Moutet. Au lieu de repeindre la cuisine, acheter des beaux torchons colorés.
On revient demain, Denis, si tout va bien, à partir de 13h.
Vous connaissez la boxe ?
La boxe.
La boxe.
Ah, la boxe, le sport, oui, oui.
Vous
oui.
connaissez les échecs ?
Aussi, oui.
Alors la combinaison des deux s'appelle le chess boxing.
On découvre demain.